Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
We have to go back, Kate. We have to go back.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Serial Causeur. Tom m'a laissé sa place pour animer une émission sur Damon Lindelof, le scénariste de Lost, dont on va bien fêter les 10 ans de la fin. Le scénariste aussi de The Leftovers et de Watchmen, qu'on a pu voir récemment sur OCS et HBO. Enfin, pas nous HBO, mais bon, voilà, OCS. Donc là, je vais vous mettre directement dans l'ambiance. Fermez les yeux. Vous glissez les mains là, non, c'est le sable chaud là, en dessous de vous, c'est très bien.
J'ai très peur.
Il y a le soleil qui caresse votre peau. Là, au loin, vous entendez le fracas des vagues sur les rochers. Et là, tout de suite, il y a une fumée noire qui vous saute dessus, qui vous électrocute la plante des pieds. Vous ouvrez les yeux et là, sur l'eau, il y a un mec tout bleu, tout nu qui marche, qui s'approche vers vous. Derrière vous, dans la forêt, il y a Nora Durst qui hurle à la mort en train de pleurer ses enfants. Et là, en face de vous, il y a Nash Bridges qui est en train de chevaucher un ours polaire qui a la tête de Miguel Ferrer. Non, mais franchement, on est où, quoi ?
Dans mon rêve érotique.
Bienvenue sur l'île de Damon Lindelof. Avec moi sur cette île labyrinthique où on va se plonger dans les méandres de la psyché de Damon, il y a trois fous qui n'ont pas peur de monter dans le vol océanique 816, oui, celui d'après. Il y aura donc Romain avec nous qui lui n'a pas peur des nombres de Lost, il se les a même tatoués sur son bras. Il y a Tom qui aime tellement Lost qu'il en a fait un nouveau documentaire, enfin pas gros, je dis un nouveau, un documentaire.
Bonjour.
Son deuxième après X-Files. Et Maxime, qui est bloqué à la saison 1 de Lost. Oh là là, dépêche-toi. Alors, donc ensemble, on va parler pendant quelques minutes de l'un des scénaristes qui a marqué les 16 dernières années de la télévision américaine, voire même de la pop culture, on va pas se gêner. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, on a tous un avis sur ses créations, sur la façon dont il nous touche, et surtout sur son statut de génie. Oui, j'ai lâché le mot « déjà ». Mais avant d'élaborer sur le sujet, on va prendre deux secondes pour parler de l'homme et de son parcours. Donc, voici en quelques mots sa bio. Alors là, vous allez rigoler parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il est né le 24 avril 1973 dans le New Jersey. Ça va. Après, il a fait une enfance tout à fait normale. Il aimait déjà écrire très jeune. Alors ça, c'est sûrement la chance d'avoir une mère prof, tu vois. Donc, il a... Après, il était biberonné quand même à la pop culture, c'est-à-dire aux comics, à Stephen King et au cinéma, de genre. Hein. Ça, c'est un truc important dont on reparlera. Ça a dû tellement l'impacter qu'il est parti à la New York University pour faire une école de cinéma. Évidemment, il est devenu scénariste. Il a pris ses bagages à la fin de son école et il est parti à Los Angeles, où il s'est inscrit à la WGA, oui, voilà, c'est ça, que je ne me trompe pas, pour relire des scénarios. Et là, il a commencé à écrire un petit peu, puis il a commencé à être embauché aussi un petit peu. 99, deux scénarios pour Wasteland, une série dont franchement, inconnu au bataillon.
Ah, Wasteland, c'était le Dawson adulte de Kevin Williamson.
Ah, ah ben dis donc.
Avec Sacha Alexander.
Ah oui.
C'est pas vrai.
Ouais, ça a pas duré longtemps, ça a été diffusé sur TF1, c'était pas foufou, quoi.
Eh ben, en tout cas, c'est là où il s'est fait les crocs. Eh juste ben. Après, il a été embauché sur Nash Bridges, donc avec Don Johnson, 2000-2001. Et c'est là où il a rencontré un pote à lui, Carlton Cuse.
Ah, le vieux.
Ouais, c'est les super potes, ça. C'est même là où il est devenu le père de son fils.
Quoi ?
Non, pas... Quoi ? Non, mais il est devenu le père, plus ou moins le père spirituel du fils de Carl.
Ah. Ah ouais.
Non, mais c'était vrai. L'année d'après, 2001, il a rejoint la série de Tinkering Crossing Jordan, qu'on connaît chez nous sur le nom de Preuve à l'appui, sur une équipe de médecins légistes qui enquête. Waouh, super passionnant. Et il a écrit pour les trois premières saisons de la série de 2001 à 2004. Et là, c'est là où J.J. Abrams, tu vois, le mec qui a plus ou moins le même parcours que lui aussi, un petit peu, qui est venu le chercher pour le mettre sur le projet le plus gros que de l'année 2004. Et après, le reste, c'est que de l'histoire, quoi. Six saisons, un final qui a fait déclencher des débats. Damon Lindelof qui s'est barré de Twitter. Pour lancer aussi, c'est bien parce qu'il a fait de la promo de sa nouvelle série, The Leftovers. pour être HBO, et puis après, bon, Watchmen en 2019. Et entre-temps, il s'est quand même amusé de temps en temps à écrire un ou deux films, à participer à des scénarios. Il a surtout fait de la coécriture plus qu'autre chose. Donc, on peut citer Cowboy Avengers, son premier, Prometheus, qui était juste voilà, avec Ridley Scott, là, donc il fait la suite d'Alien. Qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Des trucs pas très très bien comme Star Trek Into Darkness, avec DJ. World War Z, bon, il a fait qu'adapter le scénario, donc voilà quoi. Enfin, le livre. Et Tomorrowland en 2015. Ça, je crois que c'est sa plus belle œuvre.
Excellent. Ouais,
sa plus belle œuvre au cinéma d'ailleurs. Ouais. Et puis après, il nous a fait, donc avec Nick Cuse, donc le fils de Carlton, qui nous a fait The Petit The Hunt.
Ouais.
Qui a traumatisé mon début d'après-midi.
Oh. As-tu fini le film au final ?
Oui, je l'ai fini.
C'est bien.
Enfin, avec une demi-heure de sieste entre les deux.
Et donc voilà, donc je vais commencer avec une question. A priori, vous devrez être d'accord. C'est fait le scénariste de la quête de sens, alors que ce soit de la vie en général ou de soi, hein, d'après tout ce qu'on a pu voir dans toutes ces séries. Est-ce que vous pensez que c'est pour cela qu'on se retrouve en lui et qu'il nous passionne jusqu'au point de nous interroger nous-mêmes ?
Ouais, moi je veux bien répondre, donner un début de réponse. Je pense que oui, c'est une des raisons pour laquelle on est autant passionné par ces récits, parce qu'au final, avec ces personnages, il questionne l'humanité des gens, mais il fait aussi questionner ces personnages. Donc en fait, c'est pas une question de juste le spectateur qui se questionne sur tous ces sens-là, mais c'est ces personnages aussi qui se posent toutes ces questions-là et qui nous font être plus proches d'eux, en fait, parce qu'ils ont les mêmes interrogations. Et on ressent ça à travers ces trois séries que sont Lost, The Leftovers et Watchmen, mais de façon totalement différente. Ils n'ont pas les mêmes quêtes, ils n'ont pas les mêmes sens, ils n'ont pas les mêmes questionnements. Et pour autant, on se retrouve dans tous ces personnages-là aux questionnements radicalement différents.
Je suis assez d'accord avec toi. Je me suis posé la question quand j'ai commencé à revoir Lost il y a 4 jours. Où je me suis dit, en fait, je ne suis pas attaché à un personnage en particulier. Et si on me demande un jour mes personnages préférés, il n'y en aura aucun de Lost et il y en aura peut-être un de The Leftovers. Mais en fait, j'ai l'impression que le personnage, c'est nous. Comme tu dis, ils les posent tout le temps à questionner le sens de leur vie, le sens de leurs actions. Et au fait, au final... Oui, j'ai l'impression qu'il met beaucoup du spectateur dans les personnages. Il laisse vraiment les personnages ouverts aux questions que nous, on peut se poser aussi. Je ne sais pas si c'est super clair, mais je ne sais pas. Contrairement à d'autres séries, je ne m'attache pas aux personnages, je m'attache à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font.
Tom, un avis sur la question ?
Vu dans l'état où j'étais à la fin de Lost, c'est pas parce que j'ai eu les réponses à toutes mes questions, hein. C'est parce que c'était les personnages qui avait une fin, quoi. C'était des... J'étais avec eux, sur l'île. Et soit je mourais avec eux, soit je partais avec eux. Enfin, c'était quelque chose qui était très lié... Enfin, il y avait un pacte entre moi et les personnages, quoi. Et...
C'était toi le 47e passager survivant du crash
J'étais dans les WC de l'avion.
Ah oui. Pourquoi t'étais aussi attaché à eux, justement ? C'est parce que tu retrouves une part de ton humanité dans eux, c'est ça ?
Il n'y a aucun personnage qui me ressemble, mais c'est dans les thématiques qu'on se retrouve.
Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est...
Ouais, et c'est pas... C'est pour ça que ces trois séries-là... Bon, je parle plus de Lost et de Watchmen, qui sont des séries un peu plus... Oh, et encore, j'allais dire moins humaines que Leftovers, mais encore non, justement. C'est la magie de la question. Mais, ouais, encore, Leftovers, c'est pas plus crédible que Lost. On va pas dire ça, mais.
Non.
En fait, non, je sais pas où. Je sais pas, parce que j'allais dire que Lost était plus terre à terre, mais non, mais pas du tout, en fait. Et je sais pas, en fait, c'est une très bonne question.
Elle a pu commencer comme ça, parce que bon, au final, c'est une histoire banale, quoi. Un avion qui se crache sur une île, il y a des survivants, et puis ça commence très terre à terre. Mais après...
on était là pour choisir un des personnages, pour se dire, bah, c'est ce personnage-là qui me ressemble, parce qu'il y avait un peu tout, quoi. Il y avait un peu tous les archétypes des personnages, voilà, le badass, le gros, le noir, l'asiatique, le couple, le vieux,
le héros qui sait tout faire.
Ouais, ouais, la finalité de ces trois séries-là, ça va au-delà peut-être de leur pitch de départ, quoi. C'est peut-être ça aussi qui fait la force des trois séries et du travail de Lindelof et de sa marque de fabrique, c'est d'aller au-delà du simple pitch de départ, quoi.
C'est ça qui est encore plus passionnant, parce que je trouve que ce mec-là, il s'interroge. Alors, très jeune, hein, au final, il avait 31 ans. Si je me souviens, 31 ans qu'il a commencé Lost. Il s'interroge sur des trucs vraiment essentiels et que nous, on met toute notre nuit à se poser des questions, à essayer de trouver des réponses, etc. À 31 ans, le mec, il arrive, il te met Lost, The Leftovers, Watchmen dans la foulée. Et au final, en ayant un parcours qui est ridicule, quoi. Enfin, il est né et il a vécu, quoi. Enfin, il ne s'est rien passé dans sa vie qui soit extraordinaire pour que le mec, il se pose des questions existentielles.
Il est bien tombé.
Aussi grand que ça, quoi.
Et ce que tu as dit dans ta question, où il serait quelqu'un qui cherche qui est en quête de sens, ce qui est super intéressant avec lui par rapport à d'autres showrunners, c'est qu'il n'apporte jamais de réponse, vraiment. Enfin, c'est ce qu'on a reproché à la fin de Lost, c'est ce qu'on a reproché à la fin de The Leftovers, même si elle est un peu plus radicale dans son approche, je trouve.
Mais des gens qui reprochaient des choses à la fin de The Leftovers.
Mais je crois qu'il avait dit dès le début de The Leftovers qu'il n'allait pas donner de réponse de toute façon. Mais quand je l'avais interviewé en 2017 pour la saison 3 de The Leftovers, justement, il avait dit qu'il était fasciné par le mystère. Non, oui, c'est ça. Mais il est encore plus par les mystères non résolus et l'ambiguïté. Et il disait que ce qu'il essaye de raconter, c'est des histoires qu'il n'avait encore jamais vues. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on est tant attiré par sa façon de décrire ou sa façon de présenter les choses, c'est que il nous présente quelque chose de profondément original pour lui et de profondément humain au final, même si tu as des mystères ou de la science-fiction autour, c'est l'humanité de ces récits qui nous attire forcément.
C'était pour rebondir, c'est qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, il laisse le spectateur maître de la fin, en fait.
C'est ça.
On a le droit de choisir la fin qu'on veut voir dans son histoire. Et pour moi, ça, c'est tellement plus intéressant qu'une fin fermée où on nous dit, en fait, c'était ça tout du long. Non, là, on nous a donné des indices, on nous a donné une histoire, mais à la fin, il choisit de nous laisser l'opportunité de choisir notre fin. Dans Lost, on peut penser que c'est une vie après la mort, que c'est le purgatoire, que c'est qu'ils étaient tous morts depuis le début.
Non, ça, on n'a pas le droit de penser ça. Non, c'est interdit.
Il laisse tout ouvert. Sa fin est écrite de telle manière. Et dans The Leftovers, c'est pareil. La dernière séquence entre Nora et Kevin, c'est clairement ça. J'ai l'impression que c'est son manifeste. C'est, est-ce que vous choisissez d'y croire? Est-ce que vous choisissez de ne pas y croire? Ben, en fait, faites-en ce que vous voulez. C'est plus mon problème. Et moi, je trouve ça génial.
Okay, oui, ça, on va pas te démentir là-dessus. Est-ce que Lost n'a pas été le parfait laboratoire pour lui pour travailler tous ses sujets, ses obsessions et ses angoisses existentielles? C'est sa seule série originale. Et est-ce que c'est vraiment pas le truc où il s'est éclaté et où il a pu faire ce qu'il voulait, quand il voulait, sur le fond et sur la forme?
Bah, il était bien entouré aussi. Enfin, bien entouré. Oui. Parce que quand on voit ses trois projets, c'est toujours avec quelqu'un d'autre, en binôme. Donc, je pense qu'il... Il délègue vachement, je pense qu'il travaille très bien avec d'autres gens et il sait transmettre ce qu'il veut à son équipe autour. Et je pense que Lost, parce qu'on parle souvent de lui pour Lost, alors que Carlton Cuse était quand même le binôme, mais en fait, Carlton Cuse était là juste pour faire, c'était le papa, c'était le vieux Briscard qui était là, qui avait déjà fait 20 ans de télé.
C'est pour pas laisser le jeune nouveau chourner tout seul.
Ouais.
Quoi.
Et quand on voit ce qu'a fait Carlton Cuse après, par rapport à Lindelof, on voit où était le cerveau, quoi.
Mais après, je crois que sur la première saison de Leftovers, il était plutôt seul, même si évidemment il s'était entouré de Tom Perrotta parce que il avait adapté son livre. Mais il me semblait avoir vu une interview où justement il disait qu'il était très très seul pour la première saison et qu'il s'était entouré ensuite pour les deux autres saisons et que ça l'avait un peu libéré aussi de ses angoisses et du reste de son travail, quoi.
Mais il y a aussi qui s'est libéré du matériau original.
Et ça aussi, évidemment, oui. Et c'est pour ça que quand tu dis que Lost est sa seule série originale, au final, c'est pas tout à fait vrai, parce que The Leftovers, c'est un peu entre les deux, quoi.
Oui.
D'ailleurs, les meilleures saisons de The Leftovers sont quand même les saisons 2 et 3.
C'est ça. Et oui, c'est
même
ça.
Même s'il y a énormément de qualité dans la première et qu'elle m'aura marqué à vie, mais il y a quand même beaucoup plus de qualité dans les saisons originales, pour le coup.
Après, ouais. Pour avoir lu le bouquin, le travail d'adaptation est quand même gigantesque, hein.
Oui.
Il garde tout du bouquin, mais il le réordonne à sa manière. Enfin, c'est assez ouf.
Pour revenir à ta question, C'est vrai que Lost, vu que c'est une série, si tu lui donnes un genre, enfin, tu peux pas. Enfin, c'est pas
C'est
fantastique, c'est pas
compliqué, hein.
SF, c'est tout et rien. Donc, il a pu tout faire aussi. Donc, c'est vrai qu'une série comme ça, où tu peux faire du drame, tu peux faire de la SF, de fantastique,
Et
tu
la
peux faire.
durée aussi, je pense que d'avoir des saisons longues
Ben, c'est
et
ça, c'est une
autant de
série de
saisons,
network
voilà.
aussi. Donc,
Ouais.
voilà, plus de 20 épisodes par saison, pratiquement. Ah, il a de quoi faire, quoi. Après, malheureusement et heureusement, ça a été un laboratoire, mais avec ses limites aussi. C'est-à-dire que les premières saisons, évidemment, ils n'avaient pas de fin, donc ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient faire. Et après, avec la saison décidée, enfin la fin décidée en
Les trois
saison 3,
saisons.
là, ils se sont dit, bah, on va expérimenter non plus tout ce qu'on peut faire pour durer, mais toutes nos idées, on va pouvoir enfin les faire comme on veut. Et peut-être justement, c'est là où il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire que la chaîne leur a fait confiance. Donc là, ils se sont dit, bah, on va faire des voyages dans le temps, et puis voilà quoi. Si le public
Ouais.
suit, tant mieux.
En même temps, ils ont commandé les trois saisons d'un coup et le voyage dans le temps. Enfin, tout dépend de quel voyage dans le temps tu parles aussi. Mais bon. Enfin, si c'est les flash forward ou si c'est les vrais voyages dans le temps de la saison 5 et avec l'île qui se bat Caraba, enfin, qui s'en va dans tous les
Bah,
sens.
tu sais, c'est un peu tout, hein, parce que Lost, à partir de enfin, 4, 5, 6, c'est quand même un gros, gros bordel
Oui,
de
c'est vrai.
chronologie, quoi.
Mais au final, c'est vrai que ça reste un laboratoire quand même pour ces deux autres œuvres. Mais par exemple, je vais dire un exemple tout con, mais la romance, il donne une part hyper importante à la romance dans chacune de ces séries, même si c'est pas les thèmes principaux. Mais dans Lost, il y a pas mal de romance entre Kate, Sawyer, Jack.
J'ai été surpris au revisionnage de voir à quel point il y a tout le monde qui veut sauter tout le monde, quoi.
Voilà,
C'est
c'est ça. Mais
impressionnant.
oui. Sauf que dans Lost, t'as des couples très network à la Rachel et Ross, hein, avec le triangle amoureux, des trucs comme ça. C'est pas du tout le cas dans The Leftovers et dans Watchmen. Mais dans Lost, justement, il y avait ce laboratoire de ces romances complexes qu'on retrouve dans The Leftovers et Watchmen avec Penny et Desmond.
Aussi.
Voilà, donc c'est dans une moindre mesure évidemment parce que c'est une série network et tout, mais il a un peu travaillé sa vision de la romance très très compliquée dans Lost pour ces deux autres séries. Et il y a aussi la religion par exemple où ça a été un petit laboratoire dans Lost parce que la religion on en parle, mais il a dit qu'il n'avait pas pu l'explorer au maximum ce qu'il a fait dans The Leftovers par exemple, enfin qui est teinté de religion de la première seconde à la dernière seconde. Dans Lost, on le voit à travers le personnage de Locke notamment et évidemment les figures bibliques avec j'ai un trou de mémoire, mais Jacob et tout ça reste effleuré, on va dire, parce que c'est tellement tellement dense. Mais le truc qu'il a pas fait dans Lost, par exemple, c'est la politique.
Ah ben voilà, ben attends,
Mais
donc au final,
pour revenir.
attends, on va pas trop vite, Romain.
Non mais c'est pour ça que je dis,
Oui,
oui,
ouais.
c'est un laboratoire. Mais il a su explorer d'autres thèmes qui n'étaient pas dans Lost dans ses séries ensuite suivantes.
Et pourtant, est-ce... Ah pardon, vas-y Maxime.
Moi, c'était pour revenir sur la religion, ce qui m'a frappé là dans la première saison de Lost. En fait, il a un point de départ très manichéen entre science et religion, qu'il complexifie un petit peu au fur et à mesure avec son côté un peu SF dans la série. Là où, par exemple, dans The Leftovers, on n'est même pas sur du manichéisme, on est sur du nihilisme. C'est soit il y a rien, soit il y a tout.
Ah
Enfin,
ben, il réécrit la Bible, hein, par exemple, dans The
oui,
Leftovers. Donc, c'est
oui.
ça l'incroyable. Enfin, il se permet des libertés ou du nihilisme, comme tu dis, par rapport à la religion et que tu voyais pas, comme tu dis, dans Lost, où c'était un peu plus manichéen, clairement.
Oui, non, mais clairement, c'est assez perturbant dans la première saison entre tous ceux qui choisissent de suivre Locke et tous ceux qui choisissent de suivre Jack. Et du coup, tu as vraiment ces deux versions, versants de philosophie de vie. Et ça fait là, bon, pareil, je vais aller un peu plus loin et tu veux pas, Stéphane, mais on voit les deux côtés de l'Amérique, en fait. Où
Ah bah
il choisit de
oui.
montrer toute la bigoterie qui régit un peu les croyants et toute la le côté cartésien de ceux qui vont suivre la science.
Bon, au final, j'ai plus besoin de poser la question suivante parce que vous êtes en train d'y répondre. En fait, j'avais écrit que de Lost en fait découle The Leftovers, The Watchmen sur le fond et sur la forme. Alors, on va peut-être revenir sur la forme parce que le fond, on est en train de le dire. Et en le reliant à Stephen King, parce que donc c'est un de ses auteurs préférés, on va savoir pourquoi. J'aime beaucoup la période King des années 80-90, donc je ne vais pas critiquer, mais bon, voilà. King qualifie par exemple la tour sombre de la Jupiter de son imagination. Et au final, il relie plus ou moins toutes ses œuvres à cette œuvre-là. Et au final, on peut dire que en fait, Lost, c'est carrément la Jupiter de l'imagination de Lindelof. Parce que vraiment, comme vous venez de le dire, de Lost, il y a du The Leftovers par la suite, différent, peut-être plus complexe et plus nihiliste, voilà, comme tu dis. Et Watchmen, là, que vous parliez de politique et des phases de l'Amérique, c'était déjà aussi déjà dans, un petit peu dans Lost. Non ? Vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce qu'on peut tout relier à Lost ? Ou c'est moi qui pense qu'il n'y a qu'une seule œuvre et qu'au final, on ne fait que réécrire plusieurs fois les mêmes.
Non, je pense qu'on peut relier à Lost. On peut dire qu'on peut lier évidemment à Lost parce que la base, c'est Lost. On ne peut pas lier à Nash Bridges ou deux trucs comme ça. Enfin, il a été seulement scénariste là-bas. Lost, c'est un peu, on va dire, sa création avec J.J. Abrams. Donc évidemment qu'on peut lier ses œuvres, mais dans ses nouvelles séries, dans ses séries suivantes, je pense qu'il a peaufiné son écriture, il est allé plus loin, il a exploré les thèmes différemment. Donc, on peut les lier, mais elles sont aussi très, très différentes.
Et tu apprends aussi beaucoup d'une série de network, quoi. Tu as les avantages du network et après, tu apprends beaucoup de tes erreurs aussi. Et évidemment, Lost, c'est 6 saisons. Leftovers, c'est 3 saisons sur le câble. Et avec des saisons réduites. Enfin, quand je dis réduites, c'est par rapport à une série de network. Ouais. Évidemment, tu rectifies tout ce que tu peux et t'affines ta plume. Et puis après, voilà, Leftovers 3 saisons, la chaîne n'a pas dit, bah tu m'en fais 6 saisons. Watchmen, on a bien vu. Il y a pas pour l'instant, pour l'instant entre guillemets, il y a pas de saison 2 parce que lui, il s'est dit, bah non, j'arrête là. Bon, après, il faut espérer que sa prochaine série, ça ne soit pas que 3 épisodes, parce que là, il fait un peu petit.
Et après, un demi-épisode, et voilà, c'est bon.
Non, mais au-delà du un demi-épisode, il y a un film. Parce que là aussi, pour le coup, si on regarde la filmo de... Alors, je fais une petite entorse aux séries, hein, mais si on regarde la filmo de Lindelof, on peut aussi tout relier à Lost. Non, mais on peut tout... Alors oui, en effet, parce qu'il n'y a pas tout qui est très bon, mais on peut quand même tout relier à Lost aussi, quoi. Que ce soit Prometheus et Tomb Holland, au moins.
Des thématiques.
Un peu de Hunt aussi dedans, quoi.
Tant mieux s'il a des thématiques à lui. On ne va pas lui reprocher ça, tu vois.
Ah non, au contraire. Mais c'est bien d'avoir exploré sous différentes formes et sur différents formats aussi. C'est ça qui est assez intéressant aussi, quoi.
Pour moi, c'est là où Watchmen était quand même très, très intéressant par rapport à ses autres œuvres. C'est au niveau de la politique, parce que moi, je la vois pas tant que ça, la politique, dans Lost ou même dans The Leftovers, ou alors c'est vraiment en fond et pas une thématique, à part entière. Alors que dans Watchmen, là, il renverse tout sur la table et il s'est dit, bon, moi, je vais parler du racisme et je vais adapter le matériau original à ça. Et c'est là où je trouvais ça vraiment intéressant. Pas toujours, c'est pas parfait, mais c'est là où où la série m'a beaucoup intéressé dans son travail, c'est que je n'avais pas vu ça dans Lost et dans The Leftovers.
Non, pas du tout, mais c'est marrant par rapport, pour rebondir sur le racisme, parce que du coup j'avais retrouvé une petite anecdote par rapport à une interview qu'il donnait, et il parlait d'une conversation qu'il avait eue avec Harold Perrineau sur Lost, qui joue... le père de Walt,
Michael.
On dirait que le mec, il n'a pas vu Lost et il nous invente complètement.
L'important, c'est le personnage dans Lost.
Voilà, c'est ça. Mais en gros, Harold Perrineau lui disait que, écoute, si je suis le seul mec noir qui est rescapé autour d'une vingtaine de mecs blancs, il y aura forcément du racisme. Lindelof lui dit, mais c'est pas. C'est pas ça que Lost raconte, donc je peux pas faire ça, en fait. C'est pas à propos de ça.
Et pourtant, ils en parlent, mais pas du racisme anti-noir, mais du racisme anti-coréen. Enfin, c'est, oui. À un moment donné, ils sont très racistes vis-à-vis de Jean et de Sun. Et c'est même Michael, des fois, qui a des commentaires et des réflexions qui est quand même assez perturbante.
Mais il disait, du coup, il disait à Harold Perrineau qu'il était pas, il se sentait pas confortable en fait de le faire. C'est pas confortable du tout en français parce que le truc en anglais, mais il se sentait pas de raconter ça en fait. Il avait peur de pas le faire correctement. Et Harold Perrineau, il disait que, mais c'est pas grave, c'est normal que tu te sens inconfortable par rapport à ça, quoi. Et au final, maintenant, on retrouve ça dans Watchmen où il explore le racisme à 100%. Et ce qui est marrant, c'est que quand il était petit, il était archi fan de Watchmen, parce qu'il était oui. fan de comics, il avait lu Watchmen, et ça l'a profondément marqué. Et c'est étonnant, du coup, que ce qu'il a marqué dans Watchmen, au final, on ne le retrouve pas forcément dans Lost, et on le retrouve plus tard dans Watchmen, forcément, parce que c'est une suite du comics. Mais c'est marrant que ce thème-là du racisme, il l'explore pas vraiment dans Lost, même s'il dit que, effectivement, Lost, c'est pas à propos de ça, et que Lost, mais en parlant d'humanité en même temps dans Lost, le racisme doit être quand même, ou la politique doit être quand même ancrée dans ça, dans l'humanité. Donc c'est assez étonnant au final qu'il en ait pas vraiment parlé dans Lost.
Watchmen, donc on voit le scénariste qui prend des risques en s'attaquant à un objet de la pop culture. Alors ce que tu disais Romain, j'ai lu plusieurs interviews, il cite trois œuvres: Twin Peaks, Watchmen et La Tour Sombre de Stephen King. Voilà, c'est ces trois œuvres phares avec lesquelles il a grandi et qui ont alimenté tout ce qu'il fallait chez lui. C'est très bien parce que c'était vraiment des très bons choix. Donc avec Watchmen, il prend des risques. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui le fait écrire? Parce que s'attaquer à The Leftovers et à nous raconter ce qu'il avait aussi à nous raconter, c'était pas forcément évident tout de suite. Et avec le changement par saison et la façon dont il aborde ces saisons, aussi c'est des prises de risque chaque année de pas répéter les mêmes choses.
Pour moi, c'est ce qui fait de lui un génie. C'est parce qu'à chaque fois qu'il prend une œuvre qui n'est pas de lui, il arrive à la transformer, enfin à en faire un autre chef-d'œuvre. Quand je vois The Leftovers, comme tu disais tout à l'heure, la saison 1 est très très bien, mais c'est pas la meilleure. Mais une fois qu'il a pris le livre et qu'il s'en affranchit, mais qu'il continue à construire l'univers tout autour, c'est là où la série, elle devient mais juste immense. Et Watchmen, c'est pareil. Il prend le comic de base, et une fois qu'il décide de s'en affranchir et de raconter une autre histoire à partir de là, c'est là où ça devient vraiment excellent. Enfin, je l'aurais pas vu faire une adaptation trait pour trait de Watchmen, ça aurait eu aucun sens.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, en plus, vu que c'est une suite qui se passe 30 ans plus tard, je crois, par rapport au comics original, c'est vrai que ça n'aurait pas de sens de faire la même histoire ou d'adapter la même chose au final, parce que, voilà, mais c'est comme je disais tout à l'heure.
Il a pas pris forcément les mêmes thématiques du comics original, c'est ça aussi que certains lui ont reproché, en lui disant, mais oui, mais vous touchez à tout et vous salissez tout, quoi. Donc, mais bon.
Oui, mais là, voilà. En soi, la thématique du comics, elle aurait eu aucun sens en 2019. Enfin,
je sais bien.
Voilà, c'est ça, et c'est là où il a eu le nez fin. C'est parce que il s'est dit, je veux adapter ça parce que c'est mon œuvre phare. J'adore Watchmen, mais je ne peux pas l'adapter comme ça aujourd'hui. Ça n'aurait aucun sens. On n'est plus dans la même époque. On n'a pas les mêmes choses à dénoncer, donc je vais le faire mais différemment. Et dans The Leftovers, c'est pareil. Hein, pour moi, il s'inspire de Twin Peaks, mais ça n'aurait eu aucun sens de transférer Twin Peaks dans le matériau de The Leftovers. Donc, c'est ce mix entre ses références et ses envies personnelles qui le rendent génial pour moi.
C'est ça. Mais surtout, sa prise de risque aussi, elle se voit dans trois épisodes particuliers. Il y a The Constant pour Lost. Un épisode comme ça sur un network, c'est assez incroyable. Et t'as International Assassin pour The Leftovers, oui. Et God Walks Into a Bar pour Watchmen, qui sont trois œuvres à part entière qui ont et qui vont marquer l'histoire des séries encore de très longues années. Et c'est des énormes prises de risque. Bon, c'est de moins en moins des prises de risque parce que forcément le médium et la télévision évoluent et on voit plus de d'épisodes avec des formes particulières. Mais c'est une de ses grandes forces au final de présenter des trucs complètement originaux et de twister les codes.
Et jamais gratuit, c'est jamais gratuit, c'est ça qui est génial aussi.
Et tant que le public acceptera ça, ça ira. C'est le jour où il y aura une erreur de sa part, C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de fausses notes quoi, dans son parcours.
Ah, alors, bah... c'est là où c'est très compliqué, parce qu'il y a quand même énormément de monde qui lui sont tombés,
Bon,
enfin, lui est
alors,
tombé
oui,
dessus
c'est
pour
vrai.
Watchmen,
Oui,
parce
ou même
qu'il
pour la fin
s'attaquait
de
aux
Lost aussi.
matériaux et qu'il en a fait ce qu'il voulait, qu'en effet, c'était pas le racisme, c'était pas forcément ça, Watchmen, qu'il a adapté à 2019. Enfin, il s'est pris un retour de temps qui est assez sévère, alors que au final, il y a les gens comme vous et moi, on est fan de Lindelof et au final, on a adoré ce qu'il a pu nous proposer, quoi.
Bah, tout ce qui
Après, est-ce qu'il
ressort,
s'est pas...
c'est il y a du négatif, mais aussi du positif, quoi. Ce qu'on entend, c'est les deux camps. Et tu vois, tant qu'il n'y a pas un camp qui prend le pas sur l'autre, ça ira. Là, au niveau bon, après les audiences sur Watchmen, j'ai pas vu si ça marchait bien ou pas. Mais si artistiquement ça colle et que les influenceurs entre guillemets, ceux qui propagent la bonne parole, sont conquis. Voilà, le grand public c'est pas le grand public qui vise. Pour
C'est mais là
Lost,
tout ça dépend.
fallait accepter le contrat à chaque saison. Hein.
C'est que ça dépend aussi ce que tu cherches, par exemple, en regardant une adaptation de Watchmen. Si tu cherches un copier-coller de ce que tu as lu, certes, c'est très mauvais pour ce que tu voulais voir. Mais si tu cherches une œuvre qui s'en inspire, bah pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, il a compris ce qu'il fallait faire.
Après, pour Watchmen, il s'est surtout pris des énormes critiques et un retour de bâton par l'extrême droite américaine, par les nazis et les
Ah bah oui, bah.
néo-nazis, et parce que sa façon de dépeindre les
Le Ku Klux Klan.
oui, c'est ça, les méchants sont
Fasciste.
les blancs, suprémacistes blancs, les gentils sont des noirs. Enfin, il s'est fait énormément critiqué sur ça, mais c'est des critiques sans fondement, c'est pas des critiques sur sa façon de raconter son histoire, c'est pas une critique sur sa façon de d'écrire, c'est plus une critique sur des points de
Politique.
vue politiques, en fait, qui n'ont aucun sens.
Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il commence à les cumuler, les critiques autour de lui. C'est que, oh, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, pardon, mais
Les nazis.
la fin de Lost, il s'est fait lyncher parce que ouais, on n'a pas de réponse, on ne comprend rien. En fait, ils étaient morts depuis le début. On vous disait ça et vous nous avez dit non, vous nous avez menti. The Leftovers, ouais, bof, d'accord, ok. Et au final, c'est quoi ce que il est arrivé quoi aux gens qui sont disparus?
Mais
Mais ça, dès
tant
le
mieux
début, il avait dit non, qu'il dirait pas.
qu'il aille pas chercher ce type de public, quoi.
Et puis après, il y a une différence entre les critiques sur la narration et une critique politique.
Ça.
Enfin, tu cherches pas la même. Enfin, oui, tu cherches pas la même chose. Je peux comprendre qu'on critique la fin de Lost. Je peux pas comprendre les critiques du Ku Klux Klan sur le choix. Enfin, sur le parti pris de Watchmen. Enfin, pour moi, ça. Elles sont même pas valables, ces critiques. Là où les critiques sur la fin de Lost, bon, on
Non,
peut les
alors non,
entendre.
je parlais pas. Non, mais je parle pas forcément des critiques sur le Ku Klux Klan. Ça, personnellement, enfin, voilà. Mais non, c'est surtout sur le fait de l'adaptation, sur le fait qu'il a dénaturé l'œuvre et que les gens crient au génie sur Watchmen des années 80. Et aujourd'hui, ils vont te dire le Watchmen d'aujourd'hui, ça a aucun rapport. C'est vaut mieux l'oublier et que ça n'a aucun intérêt, quoi.
Oui, mais le paradoxal, c'est qu'il critique, il disait, ouais, il disait que il a trop politisé Watchmen, alors que l'œuvre originale n'était pas le politisé. Mais ils sont débiles, en fait. Enfin,
C'est clair.
ça n'a aucun sens. Elle était ultra politisée, même à l'époque, le Watchmen. Donc, en fait, ils ont un peu la politique à géométrie variable.
Ah bah, clairement. C'est des Américains, hein, il faut pas
Oui, c'est
oublier.
ça.
Et après, enfin, les critiques sur The Leftovers et Watchmen étaient quand même très minimes par rapport à celles de Lost.
Oui, parce que The Leftovers, personne n'a regardé. Donc déjà, à la base...
Voilà.
En fait, Lindelof, il dit dans beaucoup d'interviews d'ailleurs qu'il est fasciné par les cultes. Et au final, avec ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on est, il y en a pas un qui s'est créé autour de lui, dont on serait, bon, à raison, hein, on va pas se mentir, mais comme tout leader, il est soit adulé, soit détesté, ou est décrié, quoi.
C'est vrai.
Non, mais
Non, non, mais c'est vrai que bah, on le voit, hein, on le voit avec comment la fin de Lost polarise les gens et les avis. T'as
et
ceux
10 ans
qui ont
après,
aimé,
en plus.
c'est ça, en plus 10 ans après, et t'as ceux qui ont détesté, t'as pas de juste milieu. Enfin, je connais pas quelqu'un qui a fait ouais, la fin, ouais, pas mal. J'ai jamais entendu ça ou jamais lu ça. Donc, forcément, il y a une sorte de culte soit de l'adoration, soit de la détestation à travers cet homme. Et même quand tu vois, pour les anti-Lindelof, à chaque fois qu'ils le voient au scénariste d'un film, ils vont dire, OK, bah, c'est mort, je vais pas le voir parce que je sais que ce sera de la merde. Après, c'est différent parce que ils ont en tête Prometheus ou ce genre de choses qui le tiennent pour responsable du raté. Il explore des sujets et des thèmes tellement forts et tellement ancrés en nous que forcément, ça touche les gens négativement ou positivement.
En fait, les gens négatifs, c'est des gens qui refusent d'être touchés, quoi, c'est ça ? Peut-être. En fait, ils sont touchés, mais ils se refusent de se l'avouer parce que ça serait compliqué de se dire « Mais en fait, ce mec, il a tout compris à ma vie. »
Mais après, ce qui est dingue, c'est que les gens le détestent, mais c'est même pas pour une série en entier, c'est pour un final. Enfin, moi, les critiques que j'entends sur Damon Lindelof, à chaque fois, la seule qui revient, c'est le final de Lost. Tout le reste de la série a soit été occulté, soit ils avaient adoré, mais ils ont détesté le final. Je trouve ça dingue de ne pas aimer le travail d'un homme juste pour un épisode, comme si c'était vraiment le parangon de toute sa carrière, alors que pas du tout. Tout ce qui était avant était 100 fois plus intéressant.
C'est ça, de jouer sur la promesse, en fait. Ces trois séries sont basées sur une promesse et... qui n'est pas la même pour le public et pour l'auteur. Le public va parce qu'il y a une promesse. Pour Lost, ils pensaient que ça, je sais pas, qu'il y avait une grande question, alors qu'il n'y avait pas deux grandes questions dans Lost. Dans Leftover, justement, il y a une grande question, mais c'est pas celle qu'on doit se poser.
Puis il a toujours dit qu'il aurait pas la réponse
oui,
comme zéro.
Oui, et pour Watchmen, la promesse, c'était de faire la même chose que l'œuvre originale, mais de faire différent tout en gardant la même chose. Donc en fait, le public s'est dit, de toute façon, il aurait fait la même chose que le comics, les gens auraient été quand même déçus. Ils auraient, si c'est pour faire la même chose, c'est pas la peine.
Ouais.
Donc en fait, que tu fasses différent, tu auras toujours un public qui sera largué. Et c'est pas ce public-là qu'il faut viser. De toute façon, la promesse, quand on regarde une série, la promesse, c'est pas à toi de te la faire.
Non, c'est ça.
Tu dois rentrer dans l'œuvre, c'est tout.
Mais de toute façon, c'est pas un public qui préfère les réponses à la narration qu'on doit viser, clairement.
Ouais.
Enfin, c'est comme tu disais, Maxime, de tout oublier à cause d'un épisode final, ça n'a aucun sens. C'est un manque profond de recul et d'analyse. Parce que tu peux avoir aimé les 6 saisons et détester la fin, tu fais ouais, mais tout ça pour ça. Mais en fait, non, pas tout ça pour ça. Parce qu'au final, t'as fait un voyage de 6 saisons aussi, voire plus important que la conclusion au final.
Ah, mais clairement, moi, enfin. Je vais faire mon coming out, mais la fin de Lost, c'est loin d'être ma préférée et c'est pas ça que j'attendais en regardant toute la série. Mais ça m'a absolument pas gâché le reste de la série.
Mais c'est ça, exactement.
C'est absurde. Pour moi, les dernières minutes de la série apportent une réponse. Certes, c'est la réponse que les scénaristes ont choisie, mais tout le voyage qu'il y avait avant, moi, m'a 100 fois plus. Que ça, et ça n'a jamais occulté. La preuve, je me suis lancé dans un rewatch tout en sachant très bien comment elle allait terminer, et je m'en fiche, je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout parce que tout ce qui se passe avant, certes il y a des défauts, mais ça reste quand même génial.
Dans ce cas-là, on arrête le métier de critique de série et de critique d'épisode, et on attend que toute série soit terminée pour se dire on prend la série dans son ensemble. Alors certes, c'est un biais de critique possible. Mais alors qu'on arrête d'encenser chaque épisode de Game of Thrones et d'ensuite de pourrir la série parce que le final est pourri.
La saison 8 qui était pourrie.
C'est une sorte de non-logique du spectateur qui s'est dit « Putain, ça c'est trop bien. Ah merde, c'est nul finalement, j'ai gâché 6 ans de ma vie. »
Oui,
faut arrêter. C'est ça.
D'ailleurs, on va faire un instant promo, Tom, mais Destination Lost, le documentaire que tu vas bientôt sortir sur la série, c'est pour quoi ? Pour réhabiliter la fin ou réhabiliter la série ?
En fait, les deux, parce que on a fait un travail de retour, en fait, de la saison 1 à la saison 6 pour se dire, mais à partir de quel moment ça a merdé, en fait ? Que ça soit du côté public ou du côté scénario. Et en fait, c'est plutôt du côté du public, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrat qui a été passé avec le public. Dès qu'il y a eu une annonce pour 48 épisodes, fallait accepter là où ils nous emmenaient. Quand tu essaies de résumer la série, pour celui qui a lâché en saison 3, on en parlait en off, c'est impossible de lui dire, tu peux pas lui raconter la fin, parce que la fin, qu'est-ce que c'est?
Alors,
est-ce que c'est
la dernière saison 4, scène? Il se passe machin, dans la
est-ce que c'est le dernier épisode? Est-ce que c'est toute la dernière saison? T'es obligé d'expliquer toute la dernière saison, mais pour expliquer la dernière saison, t'es obligé d'expliquer la fin de la 5, mais pour expliquer la 5, c'est fou. Donc il s'est passé tellement de choses dans la série qui en plus a un peu justement fait dévier la promesse, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, il y a Dharma qui arrive, donc c'est Dharma la clé, en fait pas du tout. En fait, il y avait tellement de choses dans la série qu'on s'est accroché à chaque nouvelle chose pour dire OK, on s'approche d'une réponse finale. Et en fait, c'était pas du tout ça. Alors que tu acceptes ou pas, soit. Mais t'as le droit de, bah, comme Maxime a dit, de pas trouver la fin. Bah voilà, génial. Mais elle peut être cohérente avec tout le message qu'il y a eu pendant 6 ans, quoi. Et dans le documentaire, on voit très bien qu'il y a eu à chaque fois une sorte de renouvellement de contrat chaque saison, et que le public qui est resté, ben, il a bien fait de rester au final.
Ouais.
Pour la plupart, évidemment, pour ceux qui n'ont pas aimé, parce que je sais pas, peut-être qu'ils regardaient peut-être d'un œil ou je ne sais quoi, ils se sont dit, ah, il n'y a aucune réponse, faut arrêter.
En plus, c'est fou.
Pour moi, sur Lost, en plus, outre si on évacue tout ce qui est message philosophique, religieux ou quoi que ce soit, c'est quand même une histoire. Vraiment, si on prend les intrigues, on voyage. Enfin, c'est quelque chose de jamais vu, d'avoir un crash sur une île avec des monstres, avec des expériences scientifiques, les autres, tout ça. Enfin, vraiment, moi, pendant 6 ans, j'ai voyagé. Je me suis dit, où est-ce qu'ils vont nous emmener ensuite? Ça a quand même les plus grands cliffhangers de l'histoire de la télévision, bon, pas que, mais enfin, on peut en citer une dizaine qui a marqué l'histoire. Enfin, rien que pour ça, le fait d'être devant sa télé et de se dire putain, qu'est-ce que je vais voir la semaine prochaine, où est-ce qu'ils vont m'emmener la semaine prochaine. Déjà, rien que ça, enfin, c'est la marque d'une grande série. Il y en a très peu qui ont réussi ça par la suite.
Mais pour revenir à ta question, Stéphane, oui, c'est pour réhabiliter aussi la fin, c'est-à-dire que la fin découle de plein de choses. C'est pas juste terminer une série, c'est terminer 6 saisons, c'est terminer quelque chose de plus grand que même nous, on pouvait pas voir. Tu vois, c'est pas parce que tu vas regarder le pilote que tu vas savoir comment ça va se terminer. Et justement, les grandes... Enfin, en fait, Lost, on sait pas si les gens ont pas aimé parce qu'ils ont pas compris, ou est-ce qu'ils ont compris et donc n'ont pas aimé, ou est-ce qu'ils ont aimé parce que ils ont compris. Enfin, on ne sait pas vraiment d'où vient la faille et comment on en est arrivé là. Et bah, le documentaire, on va, enfin, j'espère, je touche du bois, on va essayer de raconter vraiment toute l'histoire globale de la réception de cette œuvre-là, quoi. Pas simplement la fin, parce que la fin découle de beaucoup de choses.
Eh bien, on a hâte de voir ça. Une date ou pas de date? Les 10 ans pour l'anniversaire des 10 ans?
Oui, oui, largement. Oui, oui, ce sera même avant. Pas de chance, ça sera pour après le déconfinement. Donc, les gens seront dehors. Mais non, non. Il y aura... Oui, oui, on fêtera les 10 ans dignement.
C'est bien. J'espère qu'on fera même une émission spéciale sur Serial Causeur. Hein.
Mais oui. Pour réexpliquer la fin, parce qu'il faut.
Il faut, oui, c'est ça. Alors là, je vais revenir sur une question qu'on a un petit peu sauté, mais qui me tarabuste à chaque fois que je me la pose. Est-ce que si on a aimé Lost, on peut ne pas aimer The Leftovers de Watchmen?
Comment ne pas aimer The Leftovers?
Tom, je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question plus que les deux autres.
Ben, je ne sais pas, justement, parce que je ne sais pas.
Tu n'as pas regardé ou c'est que tu
t'es non,
pas...
Non, Watchmen, je n'ai pas regardé. Leftover, j'ai vu le premier, mais j'étais peut-être pas dans le mood, tu vois. Et je sais que c'est une série assez spéciale quand même au niveau de l'ambiance.
Mais c'est ça, en fait, il y a tellement d'éléments dans Lost qu'on ne retrouve pas forcément dans The Leftover, c'est encore moins dans Watchmen, que c'est comme la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut tout lier à Lost? Oui et non au final. Et The Leftover, c'est Watchmen, dans un certain sens c'est lié à Lost par rapport à leur créateur, mais au final dans les thèmes explorés c'est aussi très très différent, donc on peut complètement adorer Lost et ne pas accrocher à la politique de Watchmen ou à la métaphysique de Leftovers.
Après, si on aime le travail au niveau de la narration de Damon Lindelof, d'avoir une narration éclatée, pas forcément linéaire, on s'y retrouvera dans The Leftovers et Watchmen. Ouais, mais c'est vrai qu'après, au niveau de la dynamique de chaque série, c'est complètement les opposés. T'as The Leftovers qui est très lente, qui est très posée, qui prend son temps sur tous les sujets, et t'as Watchmen de l'autre côté qui va à fond, qui pète tout à chaque épisode et qui laisse pas le temps de souffler. Et Lost, pour moi, est dans un entre-deux où on est toujours dans l'action, mais on prend le temps d'apprendre les personnages, d'explorer l'île. Enfin voilà, pour moi, il y a 3 pôles et Lost se trouve au milieu.
Ok. Au final, pour vous, quelle est la plus grande force de Damon Lindelof?
Cette série.
Bien vu.
Je trouve que Bah ouais, c'est ça, c'est comme disait Maxime, sa façon de raconter les histoires, c'est son originalité, sa recherche de dépassement en fait, parce qu'il va au bout de il va au bout des choses quand il raconte un truc, il va aller jusqu'à sa conclusion. Et son ouais la façon dont il explore l'humanité de ses personnages, moi ça me touche profondément, donc c'est une très grande force. Et une autre très grande force, c'est qu'il sait s'entourer musicalement à la perfection.
Max Richter,
Max Richter, Trent Reznor
Giacchino
et
aussi.
Giacchino, ouais, voilà, c'est trois
Ouais.
grands, très très grands compositeurs, et il a su les trouver à chaque fois.
D'ailleurs, on se disait à un moment donné avec Tom que Giacchino n'avait jamais aussi bien travaillé que Rust. En fait, son score est juste sublime
Ah, il est
et on le
exceptionnel.
retrouve. Il en a fait énormément, mais celui de Lost est juste dingue. Voilà. Enfin bon, bref, ça c'est. Tom, tu dis ces séries, mais au final, il y a quelque chose qui te. Enfin, qui
Bah,
t'a.
la force, c'est qu'il va là où on s'attend peut-être pas à trouver quelque chose, quoi. C'est-à-dire que Lost, bah, je me répète peut-être, mais on parle toujours d'une promesse, on parle d'un pitch, et il va ailleurs, quoi. Faut s'attendre à tout, en fait, avec lui, que ça soit même dans ses films, hein, parce que finalement, comment tu résumes aussi à la Tomorrowland, c'est pareil, quoi. The Hunt, bon, c'est peut-être son truc le moins fort, peut-être, parce que bon, c'est assez quand même basique. Hein,
Clairement.
Alors, ce qu'on disait avec Maxime, pour le coup, je pense que c'est plus du Nicuse que du Damon
Ouais,
Lindelof,
après voilà,
The Hunt.
ils se sont fait
Ah, mais
plaisir, c'est un petit défouloir, ok, après.
ouais, j'espère qu'il va pas mettre ça sur sa carte de visite.
Je pense pas qu'il en ait besoin, en fait.
Mais la grande force
Non.
aussi, c'est de pouvoir revoir ces œuvres-là, parce que Lost, on l'a tous vu, enfin, quasiment, je pense, sur 5 ans, sur 6 saisons, alors que si on la revoit là en binge, mais elle prend une toute autre forme. On comprend beaucoup plus de choses, on est à fond dedans. Leftover, je pense pas que c'est une série qui se binge non plus, parce qu'il y a quand même des choses à. On doit
Elle
se
est
remettre
impossible.
dans un certain rythme de vie après un épisode, hein. Je pense que c'est une petite claque à chaque fois.
Ah, puis si tu veux pas te suicider à la fin,
Voilà, c'est ça, voilà.
ouais, clairement.
On le reconnaît sans le reconnaître, Lindelof, et c'est ça qui est bien, c'est que il n'a pas une patte précise qui peut, à part peut-être une fin décevante pour les plus mauvaises langues. Mais non, mais ouais, c'est des œuvres qui partent à chaque fois ailleurs, quoi. C'est surtout du drame humain sous couvert de fantastique, de
C'est ça.
SF et de plein d'autres choses, quoi.
Maxime?
Bah, ils ont déjà presque tout dit. Moi, j'aurais dit sa sensibilité. Peu importe la série, il transpire d'amour pour ses personnages et pour ce qu'il fait. Et je trouve ça dingue le fait qu'il arrive à le faire passer à chaque fois. Ouais, dans Lost, là, en revoyant les premiers épisodes, je me dis, mais il aime tellement ses personnages. Enfin, ils aimaient tellement leurs personnages que tu t'attaches à eux. Pareil dans The Leftovers. Enfin, pour moi, The
Nora.
Leftovers, c'est le, ouais, c'est la plus grande série de tous les temps pour moi. Mais bon, après, ça, c'est très personnel. Mais je suis tellement bouleversé à chaque fois que je vois un épisode, même si on est en train de le voir retirer un pain grillé d'un grille-pain, on a envie de chialer parce que ça veut dire quelque chose. Enfin, non, ouais, pour moi, c'est sa sensibilité.
Et surtout, il a l'air, enfin, pour l'avoir. Vu dans beaucoup d'interviews, parce que malheureusement il doit se justifier à chaque fois qu'il passe quelque part sur plein de choses. Il est pas fatigué de toujours expliquer les mêmes choses, quoi. Tu vois, il y a la fameuse vidéo où il est face à un journaliste en 2012 qui a pas compris Lost, qui est très déçu, et tu lui dis, mais mec, pourquoi t'as fait ça? Parce qu'à la fin c'est juste un rêve et tout. Le mec il dit, mais pas du tout, enfin, je vais t'expliquer tout. Il lui explique toute la série et enfin, il a de la patience, quoi, ce mec-là. Après tout ce qu'il s'est pris dans la gueule,
Oui, c'est ça quoi.
il a de la
Et il a une autre
patience et
très grande
après
qualité.
il fait aussi ce qu'il veut, donc c'est ça qui est bien, quoi. Je pense que tu vois, pour Watchmen, il s'en est pris plein la gueule, mais il est toujours là, quoi. Et c'est ça qui est. Ça transpire aussi dans ses séries, c'est des personnages qui lâchent jamais rien, quoi.
Il a une autre très très grande qualité, c'est qu'une de ses séries actuelles préférées, c'est The Good Place. Voilà. Fallait que je le
Oh, le
fasse.
prosélytisme. Oh là 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 là. Bon, ben voilà, on va arrêter de parler de Damon Lindelof sur ses belles paroles. Alors, on n'a pas tout abordé, on n'a pas, de toute façon, on peut pas tout aborder avec Damon Lindelof, il y a beaucoup trop de choses. Ça va part dans tous les sens, et comme je disais au début, c'est assez labyrinthique, et c'est ça qui aussi, moi, je trouve, fait la force de Lindelof, et puis aussi ses personnages féminins. Hein, je n'en dirai jamais assez de bien de Nora et de Angela Abar, mais bon, et de Juliette, hein, voilà.
Juliette, absolument.
Et surtout, il ne regrette jamais rien, c'est ça qui...
Et on si, a pas parlé de il regrette une non. chose. Il a dit qu'il avait regretté d'avoir disparu des radars après la fin de Lost. C'est son seul regret.
Et il a aussi dit qu'il a regretté une chose, c'est d'avoir dit que les réponses arrivent. Pour le public, il a dit ça. Je regrette une chose, c'est d'avoir dit ça. Après, quand ABC nous a dit c'est fini, vous pouvez voir toutes les interviews, j'ai jamais dit que la réponse arrivait. J'ai juste dit si vous restez pour des réponses, vous n'avez pas aimé la fin. Voilà. Sacré d'année.
Eh bien, sur ces belles paroles, merci à tous les trois. Merci Romain. Seriously, c'est
oui,
ça
c'est ça. Oui, c'est Seriously. Qui marche toujours pendant le confinement, hein, plus que jamais. On est toujours là.
Toujours là.
C'est bien. Ça fait du travail important, c'est bien. Tom, ben, Small Things et le documentaire Destination Lost d'ici quelques jours. Donc, préparez-vous.
Mais il faut revoir Lost. C'est très important.
C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et avec Maxime, on se tient au courant de nos avancées via Messenger pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Oui, ben, moi aussi, mais c'est normal. Donc Maxime, on te retrouve sur Serial Causeur et sur Oussin. Je ne veux pas dire de bêtises. Sur Critique Club, c'est ça. Et Perdusa. Et donc voilà, merci à tous. Et puis à très bientôt avec une nouvelle série de Damon Lindelof à décortiquer.
À bientôt.